Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, un fichier administratif pour les délinquants sexuels. Emmanuel Macron s'y dit favorable. Pour mieux anticiper les violences faites aux femmes, quels en seraient les contours? Qu'en pensent les associations? Élément de réponse avec le service police-justice dans un instant. Et puis réaction du collectif féministe contre le viol qui salue cette proposition. L'actualité, c'est aussi les larmes et les excuses de Salah Abdeslam qui demande qu'on le pardonne pour les attentats du 13 novembre, ce que refuse de faire une des victimes, on l'entendra. En Ukraine, les habitants de Kiev, eux, craignent un retour des bombardements. Premier missile russe tiré aujourd'hui sur une usine d'armement. Nous serons en direct de la capitale ukrainienne. Et puis à suivre aussi un chemin de croix controversé à Rome. Et pour finir, des musiciens classiques qui enfourchent leur vélo pour jouer au pied des montagnes.
France Inter. Emmanuel Macron veut donc un fichier des personnes accusées de violences faites aux femmes.
Déclaration faite ce matin chez nos confrères de France Info, un fichier administratif plus large donc que le fichier judiciaire déjà existant, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les fichiers S. Bonsoir Emmanuel Leclerc. Bonsoir. À quoi pourrait ressembler ce fichier?
Pour Emmanuel Macron, rentrerait dans ce fichier administratif de police, je cite, des gens dont on sait qu'ils sont susceptibles d'être violents parce qu'il y a déjà eu des alertes. Et dit-il, tout cela à partir des mains courantes ou des plaintes entamées mais inachevées. Un fichier qui serait donc bien plus large que ce qui existe, avec l'objectif de pouvoir ficher toutes ces personnes pour que quand leur compagne ou future compagne vienne au commissariat, on puisse, ou gendarmerie, on puisse savoir que c'est quelqu'un qui a déjà des antécédents et avoir une alerte supplémentaire. Les différents délégués de syndicats nationaux de la police que nous avons pu consulter se sont dit pour le moins surpris d'une telle idée qui ne figure pas dans le programme officiel du candidat, car il existe déjà un fichier, le TAJ, celui du traitement des antécédents judiciaires, qui recense justement toutes les mises en cause, y compris quand il y a eu au final abandon des charges, qu'il n'y a pas eu de procès. Et ça répond justement à ce que dit Emmanuel Macron sur un conjoint violent qui récidiverait dans une autre région.
Emmanuel Leclerc du service police-justice. Alors qu'en pensent les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes? Écoutez la réaction d'Emmanuel Piette, elle est présidente du collectif féministe contre le viol, très favorable à un tel fichier.
On a déjà un fichier de délinquants sexuels. Rajouter au fichier des délinquants sexuels les délinquants sexuels conjugaux, ça me semble la moindre des choses et je pense qu'il pourrait déjà être sur ce fichier. Par ailleurs, ce que j'ai comme expérience moi avec la violence conjugale, c'est que pratiquement toutes les femmes victimes de violences conjugales sont également victimes de violences sexuelles conjugales. Vous savez, c'est la vieille réparation sur l'oreiller. On appelait ça comme ça d'un temps. Il lui fout sur la gueule toute la journée, à la fin, il se répare sur l'oreiller. Maintenant, on est moderne, on appelle ça viol conjugal. Donc, en vrai, c'est de remettre sur le lot commun la violence conjugale. C'est plutôt bien de reconnaître enfin que les femmes victimes de violences conjugales sont également victimes de violences sexuelles et que le viol conjugal, c'est une réalité. J'espère que ça va aider à la prévention.
Emmanuel Piette avec Béatrice Duguay. Emmanuel Macron, lui, est ce soir sur le chantier de Notre-Dame à Paris pour commémorer le 3e anniversaire de l'incendie de la cathédrale. Marine Le Pen, elle s'est fait chahuter à Pertuis dans le Vaucluse pour sa première sortie d'entre-deux-tours sur le terrain. Casse-toi, raciste, a-t-on pu entendre dans la foule. La candidate du RN qui a défendu un projet, dit-elle, pas du tout radical, extrêmement raisonnable, je cite. À gauche, les grandes manœuvres ont commencé. La France insoumise a envoyé 2 courriers aux écologistes et aux communistes en vue d'organiser les législatives. Concrètement, les insoumis proposent de former une bannière commune, l'Union populaire, mais dont la base serait un programme commun partagé, établi à partir du programme de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Et ça grince déjà du côté des écolos et des socialistes. Hein.
Oui, alors effectivement, seuls les communistes peuvent applaudir, puisqu'en réalité, l'avenir en commun, la base de ce programme, c'est ce qu'ils portaient ensemble avec la France insoumise à la présidentielle de 2017. Mais surtout, il y a la position très compliquée de Fabien Roussel dans sa circonscription du Nord, avec un rassemblement national très fort et sans l'aide des insoumis. Le patron du Parti communiste n'est pas assuré de garder son siège de député, puisque le PS, avec lequel il était allié, ne pèse désormais plus grand-chose. Alors, les socialistes n'ont pas été conviés, les insoumis s'expliquent, à ce stade, nous n'avons pas envoyé de courrier au PS. Les déclarations de leurs dirigeants au soir du premier tour sont claires, il n'y a pas de volonté de travailler avec nous. En revanche, revanche, ils sont trois à avoir reçu. Il y a le NPA aussi qui a reçu sa lettre, tout comme les écologistes, mais qui se cabrent. Rappelons qu'il y a encore quelques semaines, ils envisageaient de mettre certains députés dans toutes les circonscriptions. Le score de Yannick Jadot rebat les cartes, mais convaincu qu'ils incarnent néanmoins la force motrice à gauche. Pas question de passer sous les fourches caudines insoumises. À minima, propose-t-il un pacte de non-agression. Pas sûr que le rapport de force leur soit très favorable.
Laurence Perron du service politique d'Inter.
C'est sans doute l'une des audiences les plus importantes depuis le début du procès des attentats du 13 novembre.
Dernier interrogatoire de Salah Abdeslam devant la cour d'assises spéciale de Paris, comme depuis trois jours, le seul rescapé des commandos du 13 novembre a choisi de parler. Il a présenté ses excuses aux victimes. Je sais que la haine subsiste, a-t-il poursuivi, mais je vous demande aujourd'hui de me détester avec modération. Je vous demande de me pardonner, Abdeslam en larmes dans le box. Alors comment ces mots ont-ils résonné dans le palais de justice? Comment les ont reçus les victimes? On écoute la réaction d'Olivier, 33 ans, blessé au bar Le Carillon le soir du 13 novembre.
Pour ma part, j'accepterai jamais ses excuses, ou en tout cas, je lui donnerai jamais mon pardon. Tout simplement pour deux raisons. C'est que la première, voilà, il y a suffisamment d'éléments qui tendent à penser que cette stratégie, en tout cas, a été présentée et nourrie par ses avocats. On est passé de Salah Abdeslam qui a assumé d'être en tout cas un combattant de l'État islamique. Encore aujourd'hui, il assumait d'épouser les thèses de l'État islamique. Donc, pour ma part, c'est complètement impossible de pardonner quelqu'un qui continue à épouser ces thèses-là, puisqu'elles sont le fondement de son implication dans le dossier. Et tant qu'il n'aura pas renoncé à cette idéologie-là, pour ma part, il sera complètement impossible de lui accorder le moindre pardon.
Voilà, Olivier au micro de Sophie Parmentier, compte rendu de cette audience. À retrouver également sur franceinter.fr. En Ukraine, la ville de Kiev va-t-elle à nouveau se retrouver sous le feu intense des bombes russes? La nuit dernière, la capitale a de nouveau été visée par des missiles. Le Kremlin menace depuis hier de répondre à des attaques supposées des soldats ukrainiens en territoire russe. Bonsoir Faustine Calmel.
Bonsoir.
En direct de Kiev, une frappe très ciblée a eu lieu la nuit dernière sur une usine d'armement et cela inquiète les habitants.
Oui, cette frappe, elle a effectivement touché l'usine Vizar en banlieue de Kiev, un atelier de production et un bâtiment administratif endommagés. Les vitres d'une cinquantaine de voitures stationnées toutes proches soufflées. C'est ici que sont fabriqués les missiles Neptune, ces missiles que l'Ukraine assure avoir utilisés contre le croiseur russe Moskva qui a coulé en mer Noire. Moscou, de son côté, maintient que c'est un incendie à bord qui a provoqué l'avarie. Quoi qu'il en soit, ici à Kiev, cette frappe dans un district pavillonnaire à une trentaine de kilomètres du centre-ville réactive l'inquiétude de voir les Russes à nouveau viser fortement la capitale. Depuis le retrait de leurs troupes de la zone fin mars, les sirènes s'étaient presque tues, des cafés, des magasins ont rouvert. Beaucoup d'habitants qui avaient fui vers l'ouest sont revenus s'installer ici ces derniers jours. On a vu pas mal d'embouteillages. Nous étions un peu en train d'oublier que le pays est en guerre, me disait tout à l'heure une habitante. C'est une piqûre de rappel bien douloureuse.
Faustine Calmel avec Jérémy Thuil en direct de Kiev. L'équipage du navire le Moskva, on en parlait, qui a fait naufrage en mer Noire hier soir, n'a pas pu être sauvé. C'est en tout cas ce qu'affirme une responsable militaire ukrainienne, impossible à vérifier. Moscou qui dit avoir évacué 500 marins à Boutcha, près de Kiev, lieu d'un massacre qui a choqué le monde entier. La quasi-totalité des personnes retrouvées mortes auraient été tuées par balles. Déclaration cette fois d'un chef de la police ukrainienne. La chape de plomb toujours un peu plus lourde sur les citoyens russes. Deux médias de plus suspendus par le Kremlin. Le site de RFI, désormais bloqué, inaccessible sans VPN. Et le site en russe du Moscow Times, accusé d'avoir publié des informations sur des policiers anti-émeutes refusant d'aller combattre en Ukraine. On en vient à cette polémique à Rome en ce jour de Vendredi Saint. Ce soir au Colisée, le pape présidera le chemin de croix, une première depuis trois ans en raison de la pandémie. Une première polémique polémique aussi, et c'est plutôt rare. Des familles porteront la croix pendant les 14 stations du chemin de croix, mais lors de la 13e station, la croix sera portée par une Ukrainienne et une Russe ensemble. Et cela ne passe pas du tout en Ukraine, sauf que le pape est un pasteur et pas un politique, répond le Vatican à Rome, Bruce de Galzin.
Un choix inapproprié, ambigu et même offensant. L'ambassadeur d'Ukraine auprès du Saint-Siège, mais aussi le chef de l'église grecque catholique ukrainienne, le camp du pape donc, réclame que François renonce à faire porter la croix par deux jeunes femmes, Irina, l'ukrainienne, et Albina, la russe, deux amies qui travaillent et étudient à l'université biomédicale de Rome. Les Ukrainiens qui protestent sont indignés par cette tentative de réconciliation immédiate des deux peuples. Le christianisme ne peut être réduit à une compassion sentimentale, disent-ils, car il doit être juste. Le pape n'a pas commenté, mais il ne cesse de dénoncer la guerre et réclame une trêve. Les évêques européens de toutes les églises chrétiennes ont même écrit au président russe et ukrainien. Mais un proche de François, le père jésuite Spadaro, a lui réagi clairement. Les politiques et les ecclésiastiques jugent scandaleux que deux amis tiennent ensemble la croix pendant le chemin de croix parce qu'ils estiment qu'en ce moment, elles doivent être ennemies. Mais c'est ainsi qu'est l'évangile du Christ, écrit Spadaro, il est scandaleux. Il n'y aura donc pas de marche arrière. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
En bref, encore à l'étranger, les violences les plus importantes depuis un an sur la très sensible esplanade des mosquées à Jérusalem. Affrontement ce matin, ce vendredi matin, jour de prière entre Palestiniens et police israélienne. 150 blessés côté palestinien, 400 arrestations. Première violence depuis le Ramadan l'an dernier. Lors du Ramadan, justement, des heurts sur l'esplanade s'étaient muées en 11 jours de guerre entre Israël et le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza.
On termine, Sébastien, entre musique et cyclisme.
Oui, avec un festival de musique classique itinérant. Ça s'appelle Accordez vos vélos. 15 musiciens de l'ensemble Les Forces Majeures relient Grenoble à Genève en pédalant près de 10 jours de traversée. Notre maillot jaune du service culture, Stéphane Capron, a suivi la première étape.
Donc on va te monter un peu la selle, ça va changer la chose.
Avant de penser à accorder les instruments, il faut régler les vélos. Et ça, c'est le travail de Théo de l'association La Poursuite.
Maintenant, hop, deux secondes, je mets les pédales à l'horizontale. Mets la plante des pieds, ici.
Allez, les forces majeures, c'est parti. On va se lancer dans notre tournée tant attendue.
Les musiciens parcourent à chaque étape une trentaine de kilomètres jusqu'à Genève et vont donner chaque jour deux concerts dans des petites communes. Sur le chemin, ils sont rejoints pour les accompagner par des cyclotouristes.
Faites attention, il y a parfois des cailloux, mais ça passe très bien. Avec mon vélo, ça passe. Hein, et puis je vous amène jusqu'à Domaine au moins. Après, on verra.
Envisager autrement le métier de concertiste, limiter les déplacements en avion dans une démarche éco-responsable, c'est le but de cette tournée des forces majeures organisée par son directeur, Robin Ducantel.
On ne dit pas qu'il ne faut pas ou qu'il ne faut plus voyager de par le monde. Pour nous, c'était un engagement à notre portée et donc on l'a pris. Et puis on a voulu pour le coup aller plus loin et imaginer des tournées qui pour le coup se fassent notamment à vélo, utilisant donc des mobilités douces.
Cette tournée permet aussi d'aller chercher un public nouveau avec un répertoire classique et éclectique qui va de Poulenc à Mendelssohn en passant par la chanson « À bicyclette » reprise en chœur à la fin de chaque concert.
On partait de bon matin quand on partait sur les chemins. Bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, Francis et Sébastien.
Voilà, je n'oserais pas la reprendre, mais on la connaît, hein, celle-là, Claire. Voilà, le festival itinérant Accordez vos vélos, c'est jusqu'au 24 avril entre Grenoble et Genève. Un reportage à écouter en longueur demain et à bicyclette à 6h54 dans le 6-9 de France Inter.
Allez-y dans le couloir et puis en régie, ils sont tous en train de chanter. Merci beaucoup.